Aujourd'hui est un dimanche un peu spécial, c'est le 24 décembre, donc la veille du 25, jour durant lequel nous commémorons la naissance de Jésus. Bien sûr, dans le monde, et peut-être qu'ils nous ont pris cette fête pour en faire autre chose, mais pour nous, c'est Noël représente la naissance du Seigneur. Et donc, pour le culte ce matin, eh bien, nous allons voir Marie, la mère de Jésus, depuis l'Annonciation à Nazareth jusqu'au dimanche de Pentecôte, où elle se trouvait avec les disciples dans la chambre haute à Jérusalem. Nous notons très vite que Marie n'est pas une personne bavarde, mais elle se dit beaucoup de choses dans son cœur. Et déjà, dans Luc 1, 29, nous voyons que rien qu'après la salutation de l'ange, tout de suite, elle se demande ce que cela voulait dire. Ce que nous voyons souvent, c'est que lorsqu'elle ne comprend pas exactement ce que la portée des paroles et ce que Dieu lui fait savoir, eh bien, elle se les répète dans son cœur, mais ne les répète pas aux autres. Mais, comme nous le verrons, un jour, elle comprendra. Nous allons commencer par l'Annonciation. Dans le récit, nous le trouvons dans Luc chapitre 1, les versets 26 à 38. Il nous dit qu'au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Vous voyez, elle ne dit rien, mais elle se parle à elle-même. Elle se demande ce que pouvait signifier cette salutation particulière. Je continue la lecture. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie. Donc certainement qu'elle a exprimé de la crainte, son visage l'a peut-être trahi. Et donc l'ange la rassure et dit: Non, tu as trouvé grâce devant Dieu. Voilà, quand on a trouvé grâce devant Dieu, on n'a plus besoin de craindre. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Et voici une première parole de Marie. Elle dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? C'est tout à fait logique comme question. Elle ne comprend pas comment cela pourra être possible. Et l'ange lui répond: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vous savez, l'ange lui explique comment cela se fera, mais Marie n'en sait pas plus. C'est pas pour cela qu'elle comprend comment ça va se passer, mais elle comprend que Dieu a un plan et Dieu veut faire quelque chose et veut se servir d'elle. Bien sûr, c'est une chose un peu incroyable que de croire qu'elle deviendra enceinte alors qu'elle ne connaît point d'homme. Et Dieu comprend cela aussi. Et Dieu va lui donner un signe qu'elle pourra vérifier. Et il lui dit: Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Donc voilà. L'ange lui donne et lui dit: Écoute, parce que certainement que Élisabeth n'a dit à personne qu'elle était enceinte, elle s'est retirée dans sa discrétion et elle n'a rien dit à personne. Et donc Marie n'était pas au courant. Mais là, elle va pouvoir, c'est une chose qu'elle pourra vérifier. Et voyant que cela est vrai, elle saura que le reste est vrai, même si elle ne comprend pas. Et l'ange lui dit: Rien n'est impossible à Dieu. Si Élisabeth a pu avoir un enfant dans sa vieillesse, eh bien toi, tu peux devenir enceinte et enfanter un fils. En fait, les deux sont impossibles, vu la connaissance que nous avons, mais Dieu dit, rien n'est impossible. L'ange dit, rien n'est impossible à Dieu. Et Marie, elle ne peut pas comprendre plus, mais elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Donc l'ange ne dit plus rien, il est satisfait avec sa réponse, elle ne comprend pas, elle ne dit pas, après avoir posé la question, comment cela se fera-t-il, et que l'ange lui donne des explications, elle ne dira pas, ah, j'ai compris. Mais elle dira, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est en cela que Marie est un modèle, parce que il lui suffisait de savoir que les paroles venaient de Dieu. Et si Dieu le dit, même si je ne comprends pas, eh bien, je suis prêt à me mettre à sa disposition. Je suis prêt à être utilisé, si telle est sa volonté, et je vais suivre. Et ça, c'est son expression de foi. En très peu de paroles, mais elle exprime une grande foi, sachant combien de complications cela pourra lui causer. Mais elle dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Et puis, c'est terminé, l'ange part. Et très vite, bien sûr, elle va aller voir sa parente, parce que elle ne peut pas en parler à n'importe qui, mais elle est sûre qu'Élisabeth, avec elle, elle pourra partager. Donc, elle va la voir. Et donc, nous continuons la lecture au Luc chapitre 1 et versets 39 jusqu'à 56. Eh bien, là, il nous dit, dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Et elle cria d'une voix forte, Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Donc elle reconnaît que Marie est enceinte et que celui qu'elle porte est bien l'incarnation de Dieu. Et elle ajoute, Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant, parlant du sien, donc qui sera Jean-Baptiste par la suite, dit, L'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein, parce qu'il devait venir juste avant. Et Élisabeth ajoute, Heureuse celle qui a cru. Hein, voilà, elle dit à Marie, elle reconnaît que Marie a exercé de la foi. Et elle dit, Heureuse celle qui a cru que les choses qui lui ont été dites, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Donc, Élisabeth rend témoignage du fait que Marie a exercé de la foi en acceptant d'être utilisée par Dieu. Et ensuite, Marie, suite à ces propos d'Élisabeth, Marie est elle-même remplie du Saint-Esprit et elle parle, et c'est le moment où elle parlera le plus long, c'est ce cantique de Marie. Et c'est là où elle a des paroles prophétiques même, mais en même temps, nous voyons son attitude. Marie dit, Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Et donc elle parle de celui qu'elle porte, qui est Dieu son Sauveur. Parce qu'il a ajouté, hein, quand elle parle de Dieu étant son Sauveur, c'est qu'elle avait besoin d'un Sauveur, hein, si elle le reconnaît, et ce ne sont que les pécheurs qui ont besoin. On ne peut pas dire qu'elle était sans péché, elle le reconnaît elle-même et elle reconnaît qu'elle a besoin d'un Dieu sauveur pour elle-même. On peut être un excellent serviteur de Dieu, on peut exercer de la grande foi, mais tous les hommes ont péché et ont besoin de ce pardon. Et alors, elle ajoute, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. » Remarquez que là, à peine qu'elle parle du Sauveur, elle parle de celui qui est venu, eh bien, elle termine son chant en faisant référence aux promesses faites à Abraham tout au début, que Dieu s'est souvenu de ce qu'il avait promis à Abraham et à qu'une certaine postérité serait une bénédiction pour toutes les nations. Et c'est là, tout de suite, ses pensées vont vers des paroles de Dieu dans l'Ancien Testament. Et tel doit être le comportement de celui qui entend les paroles de Dieu. Eh bien, il va constamment se souvenir de ce qui a déjà été dit et il ajoutera ce qui vient de lui être révélé. Il nous dit que Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Comme elle était au 6e mois, elle est restée 3 mois, donc il se peut qu'elle soit restée jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Et elle a été témoin de tout cela. Il nous dit, puis elle retourna chez elle, donc à Nazareth. Et là, c'est elle qui va commencer à paraître enceinte. Et elle sera parmi les gens qui la connaissent bien et qui savent qu'elle n'est pas encore mariée. Donc c'est là où elle va avoir des remarques. Mais voyez que Marie, poussée par l'Esprit, lorsqu'elle pense à Jésus, eh bien elle fait le lien avec cette promesse que Dieu a faite à Abraham dans le passé. Et si nous regardons justement ces paroles de Dieu à Abraham, donc dans Genèse 22, et déjà, premièrement, les versets 3 à 8, quand Dieu demande à Abraham de prendre son fils, son unique, celui qu'il aime, et de l'offrir en holocauste, eh bien, Abraham, il le fait tout de suite. Et Abraham, il nous dit au verset 3, « Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs, et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. » Et donc, il voit de loin, et c'est à ce moment-là que le texte nous dit qu'il va laisser les 2 serviteurs et il va continuer avec son fils et le bois et le feu. Verset 7 nous dit « Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Père ». Et il répondit « Me voici, mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Cela montre déjà qu'il avait déjà accompagné son père lorsque son père a offert des holocaustes et il savait ce qui était nécessaire. Entre parenthèses, un père devrait prendre le temps avec ses enfants et pour qu'il l'accompagne lorsqu'il s'adresse à Dieu. Ces moments de culte personnel, ces moments de prière, qu'ils entendent leur père prier, c'est la chose la plus extraordinaire, la meilleure chose qu'on puisse faire pour nos enfants. Dieu le faisait, et Isaac était avec lui. Mais en réponse à la question d'Isaac, Abraham répond, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et là, Abraham parle déjà prophétiquement pour l'immédiat. Il dit, il ne sait pas comment, mais Dieu pourvoira quelque chose. Dans son esprit, lorsque nous lisons Hébreux chapitre 11, nous voyons que lui s'imaginait que Dieu allait en fait ressusciter Isaac. Et après l'avoir offert, Dieu le ressusciterait de la cendre, il savait qu'il reviendrait avec le fils. Et il l'a même dit aux 2 serviteurs qu'il a laissés, il a dit « Nous reviendrons ». Et Mais il parle aussi prophétiquement dans le sens que dans un jour lointain pour lui, eh bien Dieu se pourvoirait d'un agneau. Hein, et c'est Jean-Baptiste qui le dira, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et là, les deux continuent à marcher ensemble. Certainement qu'Isaac n'a pas compris, il ne savait pas ce que cela voulait dire. Toutes les fois, ils avaient dû emmener un agneau avec eux. Et cette fois-ci, on n'en emmène pas, mais il n'a pas compris. Mais il a fait confiance. Il avait confiance en la foi de son père. Et ça s'acquiert parce que cette foi se manifeste et se vérifie plusieurs fois. Et il nous dit aussi, maintenant au verset 9, il nous dit « Lorsqu'ils furent arrivés, parlant d'Isaac et d'Abraham, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, il rangea le bois et il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. » Je vous laisse imaginer un jeune garçon d'une quinzaine d'années qui voit que son père va le prendre et le poser sur un autel et pour l'offrir. Moi, j'imagine que la plupart des jeunes ados, s'ils voyaient leur père faire cela, même sans comprendre, je pense qu'ils prendraient la fuite. Surtout que le père, il a maintenant vers les 115 ans. Mais Isaac a pleine confiance en son père et se laisse faire. Et il sera sur l'autel. Et ensuite, il nous dit que Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, et c'est à ce moment-là que l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici !» L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Et juste à ce moment-là, il nous dit « Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans les buissons par les cornes. » Maintenant, ce bélier était certainement pas là avant, parce que sinon on l'aurait entendu. Un bélier qui est pris, et c'est sûr qu'il va bêler. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas vu avant? Ben, c'était certainement parce qu'il n'était pas là. Mais tout d'un coup, un bélier est là, et peut-être qu'il l'a entendu bêler tout d'un coup, et il l'a pris, et il a vu, il a compris la provision de Dieu. Et aussi, cette provision, eh ben, elle est prophétique. Et regardez ce qu'il nous dit. Et il dit, Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. C'est là, nous voyons ce principe de substitution, où là, c'est le bélier qui prend la place du fils, et c'est le bélier qui meurt et le fils qui vit. Plus tard, eh bien, Dieu pourvoira un agneau, et l'agneau mourra pour nous. C'est nous qui devons mourir à cause de notre péché, mais c'est l'agneau de Dieu qui mourra pour nous sauver la vie. Hein, donc ces paroles sont prophétiques et Marie, justement, dans son chant, eh bien, elle fait référence à cela et elle voit la provision de Dieu. C'est la foi permet de voir des choses que l'intelligence ne verrait jamais. Et la dernière parole de Dieu à Abraham près de l'autel, c'est « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Hein » Et là, il fait référence à cette postérité qui sera une bénédiction pour toutes les nations. Eh bien, il fait référence à Jésus-Christ, Paul nous le rappelle. Donc, le temps passe, et puis dans Luc chapitre 2 et la première partie, nous voyons que Joseph et Marie sont obligés de se rendre à Bethléem pour un recensement et qu'elle n'est pas vraiment en état pour faire ce voyage, mais elle va devoir le faire, elle est obligée de le faire. Et puis, en le faisant, bien, elle va accomplir la prophétie concernant le lieu de naissance de Jésus, parce qu'il devait naître à Bethléem. Et tout cela se passe dans une étable, certainement dans la plus grande discrétion. Ils ne font pas de bruit. ils ne disent à personne. Ils essaient de garder tout cela le plus calme possible. Mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe dans les champs aux abords de Bethléem. Il nous dit dans Luc chapitre 2, versets 8 à 14, il dit « Il y avait dans ces mêmes contrées des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit « Ne craignez point, je vous annonce une bonne nouvelle. » Donc l'ange lui-même leur dit, au cas où ils ne le sauraient pas, qu'il s'agissait d'une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour les hommes. Hein. Et une bonne nouvelle, en général, c'est quelque chose qui est positif pour nous. Hein. Quand on, parmi les hommes, lorsqu'on dit que c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que c'est quelque chose qui, dans, par lequel nous sommes gagnants. Nous avons un plus. Et il dit même qu'il sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Il dit, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Vous imaginez, les anges se sont réjouis avant les hommes. Jésus disait, hein, parce qu'il connaît, il a déjà été au ciel, il a dit, les anges du ciel se réjouissent pour un pécheur qui se repent. Plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et là, rien qu'à l'idée de savoir que des gens vont être sauvés, qu'ils pourront être délivrés, eh bien, les anges reflètent la joie qui existe dans le ciel et ils se réjouissent. Et donc, raison de plus pour nous de nous réjouir à Noël de ce que Jésus soit né. Ce qui est un sujet de joie pour les anges doit être un sujet de joie pour nous. C'est à nous de nous synchroniser sur ce qui se passe au ciel. Si le ciel se réjouit, nous devons nous réjouir. Que l'on comprenne ou pas, peu importe. C'est comme des enfants à une fête. Ils ne comprennent, comprennent ni la raison de la fête, ni rien du tout, mais ça ne les empêche pas de se réjouir à une fête. Hein, nous aussi, nous nous réjouissons avec les anges. Nous devons nous mettre au diapason avec Dieu. Celui qui cherche tout le temps à comprendre, eh bien, se prive de pas mal de joie. Et lorsque... Donc, c'est... Alors, il leur dit, et l'ange leur dit, voilà maintenant que je vous dis cela, eh bien, je vous donne un signe pour que vous puissiez aller voir. Et donc, il dit... Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté, ce qui était certainement habituel, mais couché dans une crèche. Et c'est là le signe différent. Et donc, et la crèche, c'est uniquement dans l'étable. Donc, ce soir-là, il n'y avait certainement pas d'autres bébés qui étaient nés dans une étable. Hein, c'était un signe sûr. Et certainement qu'il n'y avait pas 36 étables. Il y avait une grande étable pour toutes les bêtes de Bethléem. Et soudain, se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Et tout cela, c'est très impressionnant. Puis tout d'un coup, hein, quand on éteint la lumière, et puis alors les yeux qui se sont commencés à s'habituer à la lumière, et bien tout d'un coup, tout est très noir. Et les anges qui se frottent les yeux, puis qui se regardent les uns avec les uns aux autres, et certainement qui se demandent, mais est-ce que c'est, il n'y a que moi qui ai vu ça? Est-ce que c'est moi qui ai eu une vision? Est-ce que les autres ont vu? Et vous pouvez imaginer que l'un, il demande à l'autre, il dit, t'as vu quelque chose, toi? Tu viens de voir quelque chose? L'autre, il dit, oui, j'ai vu quelque chose, toi, tu as vu? Et puis, tu te souviens de ce qu'il a dit? Et puis, alors, ils se racontaient entre eux pour se rassurer qu'ils avaient bien vu. C'est étonnant comment Dieu choisit des gens aussi simples, aussi ordinaires, pour être témoins de la naissance de Jésus. Chez parmi les hommes, on aurait dit, ben, il faut un érudit, il faut quelqu'un qui a des grandes études, parce que c'est un témoin plus sûr. Mais vous savez, dans ce cas-là, dans le cas d'un miracle, eh bien, on peut avoir des doctorats, dans diverses sciences, mais ça ne rend pas plus crédible et plus facile à comprendre. hein, le berger qui n'a jamais, qui ne sait pas lire, ou celui qui a un doctorat ou qui a fait de grandes études en astrologie, en astronomie ou en mathématiques, eh bien, il n'y en a pas un qui comprend mieux que l'autre. Ce sont des choses qui nous dépassent. Mais Dieu s'est servi d'hommes très ordinaires qui ne se poseraient pas trop de questions et qui reproduiraient ce qu'ils ont vu sans essayer de donner d'explications en racontant. Et il nous dit que lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se sont dit, ben, on va les voir, puisque les anges sont si excités, allons-y. Et ils se sont rendus, là, il nous dit au verset 16, donc Luc chapitre 2, verset 16, ils allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Donc, tout s'est vérifié. Et puis, il nous dit, après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet du petit enfant. Ils racontèrent parce que certainement que Joseph et Marie, ils ont dit, mais comment vous avez su qu'on était là? Comment vous avez su qu'il y a un bébé qui vient de naître? Qui vous a dit ça? Parce qu'eux savaient eux-mêmes qu'ils n'avaient dit à personne. Et donc ils ont raconté leur expérience et remarqué ce que il nous dit au verset 18, tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Mais Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Vous voyez, lorsque Marie a entendu les paroles des bergers, il est écrit, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Elle gardait ces choses dans le sens de garder, c'est dans le sens de les conserver, les protéger. Elle ne voulait pas les oublier. Elle se les rappelle, elle voulait pas les oublier, elle veut les conserver telles quelles. Et puis, il nous dit, elle les retournait dans son cœur, dans le sens qu'elle avait des délibérations dans son cœur, des discussions dans ses pensées. C'est-à-dire que régulièrement, elle se rappelait les paroles, et puis ensuite, elle essayait de comprendre, et puis elle dit, et elle discutait avec elle-même, mais tout cela dans son cœur. La foi lui faisait accepter, mais pour l'instant, elle ne comprenait pas. Marie a fait la même chose lorsque Jésus avait 12 ans et que Joseph et elle étaient montés avec lui à Jérusalem. Ils l'avaient perdu, ils l'ont retrouvé dans le temple, discutant avec les érudits de la loi. Et c'est là que Jésus leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Et il nous dit, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Encore une fois, certainement, Marie se souvenait que Jésus devait être le Fils de Dieu et qu'il était né. Mais apparemment, ils n'avaient jamais expliqué ça à Jésus. Et ils avaient fait croire que Joseph était son père et qu'elle était sa mère. Et puis tout se disait de cette manière-là pour tout le monde. Et c'est comme ça qu'on avait présenté la chose. Et là, d'où est-ce qu'il a sorti cette pensée? Qu'il fallait qu'il s'occupe des affaires de son père. Et il est dit qu'il descendit, au verset 51, il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis, mais sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Vous voyez, chaque fois qu'il y a quelque chose, que ce soit les paroles de l'ange, que ce soit les paroles d'Élisabeth, que ce soit les paroles des bergers, que ce soit des paroles de Jésus à l'ange de 12 ans, chacun disait des choses extraordinaires, des choses nouvelles, des choses qui ne sont pas habituelles. Eh bien, Marie, eh bien, au lieu de les rejeter parce qu'elle ne les comprenait pas, eh bien, elle les gardait dans son cœur et les repassait dans son cœur. Après, dans Luc chapitre 2, eh bien, nous voyons que pour remplir les exigences, hein, de la naissance d'un fils, eh bien, Marie et Joseph ont porté Jésus jusqu'au temple pour faire ce qui était nécessaire là. Et il nous dit au verset 25, « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Imaginez, là, c'est de sources très différentes, hein, que ce soit l'ange, ensuite Élisabeth, que ce soit les bergers, et ici, Siméon, carrément à Jérusalem, de sources très différentes, et chacun est en train de parler de ce Jésus dans le même sens, et en train de parler de lui comme étant le sauveur. Et Marie, eh bien, elle est en train d'emmagasiner, hein, de retenir toutes ces paroles, de les fixer dans sa mémoire. Et puis, elle attend. Et Siméon, il a continué à parler. Et il dit, Siméon les bénit par la suite. Et puis, il dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Donc, éventuellement, il y aura le rejet, il y aura une division, tout le monde ne sera pas d'accord sur lui. Mais il dit, « Et à toi, parlant de Marie, il dit, « Et à toi, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Et là, elle entend cette parole, « Une épée te transpercera l'âme, pas le cœur, pas le corps, pas l'estomac, son âme. » Et elle ne sait pas à quoi ça fait référence, mais certainement, là aussi, eh bien, elle garde ses pensées, ses paroles dans son cœur, mais elle essaye de faire un... Elle a des morceaux de puzzle, mais elle n'a pas tous les morceaux. Et elle essaye d'imaginer l'image que c'est, auquel appartiennent ces pièces du puzzle. Et certainement que là, les choses ne sont pas claires, et... juste au moment où Jésus est sur la croix. Et là, nous voyons dans Jean chapitre 19, et verset 25, il nous dit « Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, dit auprès d'elle le fils qu'il aimait, Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Vous voyez, et là, à la croix, vous avez imaginé une mère qui voit son fils, elle sait qu'il n'a rien fait, qu'il soit digne d'un tel, une telle condamnation, d'un tel jugement. Et elle voit le soldat transpercer de sa lance le cœur de son fils. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'elle a compris ce que voulait dire. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme. Parce que là, certainement, elle a ressenti tout ce que Jésus a ressenti lorsque l'épée était là. Et c'est pour la première fois. Donc, après la résurrection, après l'ascension de Jésus, eh bien, dans la chambre haute, c'est la première fois que nous voyons Marie qui se joint aux disciples. Et certainement que là, elle a compris. Et tout cela prend un sens maintenant. Elle a saisi la foi, sa foi a été honorée. Et elle comprend et elle se joint aux disciples. Et nous dit que dans Actes chapitre 1, donc... Et à partir du verset 12, en parlant des disciples qui étaient là et qui ont été témoins de l'ascension de Jésus, il dit « Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à une distance d'un chemin de sabbat. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où se tenaient d'ordinaire. Ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Donc tous les onze sont là, sauf Judas, bien sûr. Hein, Judas n'est pas là. Mais il nous dit, et tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc Marie est là, ils priaient et Marie est avec eux et ils sont en train de prier parce que Jésus leur avait dit d'aller à Jérusalem et d'attendre que de recevoir l'Esprit. Et donc au bout de 10 jours, le jour de la Pentecôte, 50 jours après la résurrection de Christ, eh bien le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacune d'eux. Voilà, et Marie en fait partie. Elle a commencé par quelque chose qu'elle ne comprenait pas, mais elle a fait confiance, et pendant plus de 33 ans, eh bien, elle garde ces choses, elle les repasse dans son cœur, et enfin, elle comprend. C'est l'attitude qu'on trouve chez Marie. Quand elle sait qu'une parole vient de Dieu, elle la garde, elle la repasse, elle la médite, elle la croit, et elle attend de comprendre. Et la foi rend cela possible. L'intelligence nous prive de beaucoup de choses hein, quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. Mais la foi nous permet d'accepter des choses que l'intelligence ne peut pas accepter. Et alors, nous voyons que quand elle entendait les paroles de Dieu qu'elle ne comprenait pas, au lieu de douter ou de rejeter, elle les repasse souvent dans son cœur jusqu'au jour où tout devient clair. C'est la marche par la foi. En attendant de comprendre, elle est la servante du Seigneur et elle acceptera tout ce qu'il a prévu pour elle. Cela nous fait penser à cette parole, le premier verset de Hébreux chapitre 11 qui nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et c'est exactement le comportement que nous devons avoir, chacun d'entre nous. Il y a des choses qui sont difficiles à comprendre, des choses que nous entendons. On sait bien que c'est ce que Dieu a dit. Eh bien, faisons comme Marie. Elle est un modèle pour nous. C'est une femme que Dieu a choisie parce que, justement, elle avait cette attitude, qu'elle pouvait entendre des choses et sans les comprendre, elle était prête à être obéissante. Et si nous voulons être des serviteurs de Dieu, eh bien, c'est à nous aussi d'avoir cette attitude où lorsque nous entendons la parole de Dieu, nous la recevons, nous la mettons dans notre cœur, nous la gardons, nous la serrons dans notre cœur et nous nous mettons à la disposition du Seigneur pour qu'il se serve de nous comme il voudra. Et un jour, nous comprendrons, un jour, nous verrons. Et comme il nous dit dans 1 Corinthiens 13, il dit un jour, eh bien, même la foi passera parce que nous verrons. Hein, il n'y aura plus ni espérance ni la foi parce que nous verrons et nous aurons. Et il ne restera que l'amour. Que le Seigneur nous aide dans notre attitude, et peut-être qu'il y a eu un moment où nous avions ce comportement, mais nous l'avons perdu, eh bien, demandons à Dieu de nous pardonner et décidons, pour cette nouvelle année, de nous souvenir de Marie et d'avoir le comportement de Marie que Dieu a approuvé. Et parce qu'elle a été fidèle, eh bien, elle a compris et Dieu a pris soin d'elle. Et elle a été grandement utilisée. Et elle est un modèle pour nous tous. Cette femme qui est peu bavarde, qui n'a pas fait de grands miracles, mais qui est un modèle pour chacun de nous. Que le Seigneur nous aide à comprendre ses principes. Que Seigneur vous bénisse et vous garde chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen.